Je peux déjà faire ça là. Alors, un petit peu, c'est un drôle de son. C'est très, c'est bizarre quand on parle. On a un drôle de retour. Bon, donc bienvenue à tous pour cette sixième. Donc en fait, c'est la sixième séance du séminaire des figures du juge, séminaire que le Centre de droit public organise dans le cadre d'un projet de recherche, d'un programme de recherche de la faculté de droit qui porte sur l'action du juge. Alors, ce séminaire. On l'a déjà présenté, mais je le rappelle pour ceux qui ne sont pas là à chaque séance. Ce séminaire vise à cerner différentes représentations ou images ou figures du juge et plus généralement de la justice. Ces représentations variant selon les traditions, les savoirs, les disciplines. Et donc ce séminaire essaye de mobiliser différentes disciplines ou différentes traditions pour donner une représentation du juge multifacette. Je dirais. Alors, la méthode qu'on a retenue pour ce séminaire, oui, non, c'est une bonne idée, de l'eau. On en a ici, je pense. La méthode retenue pour ce séminaire, c'est d'inviter un orateur pour exposer une figure du juge dans un courant ou dans une tradition ou selon un contexte particulier ou spécifique. Et nous proposons ensuite à un discutant, issu normalement d'une autre discipline ou d'un autre courant, de venir questionner l'orateur principal et son exposé. Alors, pour tenir ce rôle ce soir, nous sommes particulièrement gâtés, puisque nous avons deux invités, entre guillemets, extérieurs à notre maison. D'abord, nous aurons le plaisir d'écouter Carlo Guarnieri, qui est professeur à l'université de Bologne, au sein de laquelle il enseigne principalement le système et les institutions politiques au sein de la faculté de sciences politiques. Alors je précise la faculté de sciences politiques puisque ça fait partie de notre méthodologie de situer le discours d'un orateur par rapport éventuellement à une discipline dont il serait issu. Carlo Guarnieri donc principalement politologue, mais il est surtout en fait bien connu des juristes, car il a consacré un grand nombre de travaux au pouvoir judiciaire et à son rapport avec d'autres pouvoirs. En particulier, il a consacré de nombreux ouvrages et de nombreux articles à la notion d'indépendance du juge et du rapport entre cette notion et la notion d'état de droit. Et je le dis ici en français, mais c'est aussi... Bref, une discussion sur la différence entre état de droit et rule of law. Alors, l'indépendance des juges, qui sera notre thème de ce soir, vous l'aurez compris, et que nous interrogerons donc sous l'angle politique de la démocratie. Est-ce que l'indépendance, et même est-ce que le pouvoir des juges, sont une chance ou des entraves pour la démocratie contemporaine? Et c'est particulièrement heureux pour nous d'avoir Carlo Guarnieri ce soir, parce que bien sûr il est spécialiste de ces questions, mais aussi parce qu'il est italien, et outre le fait que c'est toujours agréable d'entendre un italien parler aussi bien français avec un accent aussi charmant et agréable, si vous m'autorisez cette remarque, c'est aussi parce que on sait en Italie l'importance des tensions qui ont existé historiquement mais qui continuent d'exister entre le pouvoir et la justice, Et on sait également l'actualité politique italienne qui est souvent, secouée par ce type de questions, et notamment dans la dernière affaire Berlusconi. Pour répondre ce soir, en tout premier lieu, et chacun aura l'occasion de participer au débat s'il le souhaite, pour répondre ce soir en premier lieu à Carlo Guarnieri, nous avons invité Sébastien Van Drogenbroek, que nous connaissons bien à l'ULB et que nous remercions d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Sébastien Van Drogenbroek est, lui, juriste, spécialiste de droit public. Il est maintenant doyen de la faculté de droit de l'Université Saint-Louis. Et il est aussi l'auteur d'une étude qu'il a co-dirigée en 2006 et qui était consacrée aux garanties constitutionnelles de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Alors après leurs interventions, le public pourra évidemment prendre part au débat, qui se veut le plus ouvert possible. Certains d'entre vous l'ont déjà pratiqué, mais je cède immédiatement la parole à M. Guarnieri, que je remercie encore.
Merci, merci bien, merci à l'Université libre de Bruxelles, merci à Julie Allard pour cette invitation. Et je chercherai ce soir de présenter ma recherche, ma thèse, et qui pose sur la transformation qu'a touché les pays de l'Europe continentale dans les dernières 40 ans. Cette transformation, c'est importante, spécialement parce qu'aujourd'hui, l'expérience européenne va être répandue, pas même dans l'Est, dans l'Europe de l'Est, mais dans les autres continents, spécialement dans l'Amérique latine et dans certaines mesures même en Asie. Quelle est cette transformation? Cette transformation consiste dans un renforcement notable de l'indépendance externe de la magistrature, des juges. Je vous propose surtout cette différence entre l'indépendance externe et l'indépendance interne. On va retourner sur ce point plus avant, mais c'est un point qu'il faudra discuter plus avant dans notre colloque. Alors, le premier point que je vous propose, c'est le caractère de l'arrangement traditionnel des magistratures dans les pays démocratiques. Vous, peut-être, c'est une chose que beaucoup de vous déjà connaissent, mais il y a un arrangement traditionnel qui s'est partagé entre les pays de l'Europe continentale ou les pays des civil law et les pays anglo-saxons ou les pays des common law. L'arrangement institutionnel des juges, c'était un arrangement qui donnait toujours, ça c'est un point qu'il faut toujours retenir, qui donnait toujours au système politique, au environnement politique, une certaine influence sur les juges. Le point, c'était que cette influence était différente. Dans les pays anglo-saxons, l'influence du système politique, c'était une influence qui s'est déroulée surtout dans un moment du recrutement. Le recrutement des juges dans les pays de common law était, même aujourd'hui, dans cette façon, c'était un recrutement qui donnait au pouvoir politique, dans certains cas même aux citoyens, aux électeurs, la possibilité de choisir les juges. Bien sûr, si vous voulez, on peut discuter de ça plus avant. Il y avait des différences entre les États-Unis, l'Angleterre, l'Écosse, les autres pays du common law. Mais l'influence politique, c'était une influence qui s'est concentrée sur le moment du recrutement. Après le recrutement, l'influence politique était vraiment négligeable. Parce que les juges anglais, les juges américains, au moins les juges fédéraux américains, étaient et sont toujours nommés à vie. Et dans les cas des juges de la Cour suprême des États-Unis, vraiment en vie, dans les cas où il n'y a pas un âge de la retraite, il peut rester jusqu'à ce qu'il veut. Je crois que maintenant il y en a deux ou trois qui sont plus que 81. Mais dans tout cas, il n'y avait pas des interventions, il n'y avait pas la possibilité par les pouvoirs politiques d'intervenir dans la carrière, dans les promotions des juges, sinon dans une façon très étroite, très limitée. La situation des pays de l'Europe continentale, des pays des common law, c'était différent. Dans ce pays, la magistrature, et vous le savez peut-être bien parce que vous êtes dans un pays de civil law, donc, où cet arrangement était normalement la pratique normale, le recrutement des magistrats est fait normalement avec des concours après l'université, et la magistrature, c'est plus ou moins un corps spécialisé de l'État. C'est une, si vous voulez, à un arrangement qui est très semblable à les bureaucraties classiques de l'Europe continentale. On est recruté après l'université, et après on fait, si vous voulez, une carrière avec des promotions, il y a, comme on dit, des rangs dedans la magistrature, et les pouvoirs politiques pouvaient exercer une certaine influence avec l'influence qu'ils pouvaient avoir sur les promotions. Surtout les promotions des magistrats plus élevés, du sommet de la pyramide, étaient normalement faites par les pouvoirs politiques, par les ministres de la justice, dans certains cas dans les conseils des ministres, mais plus ou moins. Alors, ça c'était l'arrangement traditionnel. Alors, l'indépendance des juges était toujours limitée dans les pays des common law par le fait que les juges étaient choisis par les pouvoirs politiques, par l'environnement politique, dans les pays des civil law parce qu'il avait la carrière. Il avait toujours, si vous voulez, des incentivations ou des sanctions plus ou moins formelles qui pouvaient toucher les juges. Alors, cette situation a caractérisé les pays démocratique plus ou moins jusqu'à la deuxième moitié du siècle XXe. Dans les derniers 40-50 ans, on a eu un changement notable. Changement notable qui s'est accompagné à des qui s'est opéré, comment dire, à des autres réformes qui ont été introduites dans les pays de l'Europe continentale, spécialement après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont beaucoup de choses que vous peut-être déjà connaissez. Par exemple, l'introduction du contrôle judiciaire de constitutionnalité dans beaucoup de pays de l'Europe continentale. Vous savez que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le seul pays ayant un contrôle judiciaire de constitutionnalité dans l'Europe continentale a été l'Autriche, mais seulement pour une période très courte, et même le Portugal, mais tous les deux pour une période très courte, parce que les démocraties autrichiennes et portugaises avaient fait une fin négative, c'était décroulé pendant les deux guerres, et normalement il n'y avait pas un contrôle judiciaire des constitutionnalités des lois. Cet changement a été introduit après la Deuxième Guerre mondiale, ensemble avec cet changement, l'autre grand changement a été ce que je vous disais avant dans les premiers mots de mon intervention, un renforcement de l'indépendance judiciaire. Le renforcement de l'indépendance judiciaire a été fait avec des façons différentes, mais normalement on a introduit dans beaucoup des pays de l'Europe continentale des conseils de justice. Des conseils à la Belgique, je crois qu'il s'appelle Conseil supérieur de la magistrature, comme en France et en Italie. En Espagne, il s'appelle Conseil général du poder judiciaire. En Portugal, s'appelle assemblablement le Conseil supérieur de la magistrature. Et plus ou moins, donné les pouvoirs traditionnels du ministre sur le corps judiciaire ont été transportés et donnés à des conseils de justice. Des conseils de justice qui sont normalement formés par des magistrats élus par les corps judiciaires, par des juristes qui normalement sont élus par les pouvoirs politiques, par les parlements, dans certains cas même nommés par les ministres ou par l'exécutif. Normalement, sont élus par les parlements, mais dans une façon différente. Il y a des situations dans lesquelles la majorité des membres du Conseil de justice sont des magistrats qui sont élus par ses pairs, et il y a des autres situations dans lesquelles la composante judiciaire c'est plus réduite, c'est pas la majorité, c'est moitié, c'est un peu moins, ça dépend des situations. Mais normalement, on peut faire une différence. Il y a deux versions, si vous voulez, on a parlé tout justement de deux versions des conseils de justice. Il y a la version du Nord et la version du Sud, on dit comme ça. La version du Nord, c'est une version dans laquelle les sept conseils ont moins de pouvoir et sont composés d'une façon moindre par des juges élus par ses pairs, par les corps. La version méridionale, si vous voulez, c'est la version dans laquelle les conseils ont beaucoup plus de pouvoir et ils sont formés d'une façon au moins dans la moitié par des juges élus par les corps. Cet changement a provoqué une augmentation de l'indépendance externe et d'une certaine façon même interne. Maintenant, j'ai introduit cette différence que peut-être beaucoup de vous déjà connaissent, mais c'est important. L'indépendance externe, c'est une indépendance qui se réfère à relation entre les pouvoirs judiciaires, entre la magistrature et les autres pouvoirs de l'État et les autres institutions politiques. Surtout les gouvernements, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Ça, c'est la dimension externe de l'indépendance. L'indépendance interne, c'est une indépendance qui réfère aux relations entre les juges. Et c'est un conseil qui s'applique tout surtout aux pays de l'Europe continentale, aux pays où il y a une carrière, où il y a une structure bureaucratique de la magistrature. Pourquoi ? Parce que normalement, dans la tradition, comme je vous disais, les magistrats étaient, les juges étaient recrutés après l'université, après peut-être un petit stage dans les cabinets d'avocats, plus ou moins, et ils faisaient une carrière, et cette carrière était gérée, était contrôlée, influencée par les juges plus âgés, les juges du grade supérieur, du rang supérieur. Alors il y avait une carrière dedans, la magistrature. Alors, cette situation était une situation qui, selon beaucoup, on a soutenu, mettait à risque l'indépendance interne du juge, la dimension interne. Cette dimension interne n'est pas tout, a été, comme on dit, a été développée dans certains pays. Il y a des différences de ce point de vue dans les pays que je vous ai de l'Europe continentale. Tandis que l'indépendance externe a été plus ou moins augmentée, renforcée par tous les pays, la question de l'indépendance interne, c'est toujours un peu complexe. C'est une situation dans laquelle il y a des différentes positions. Mais il y a des pays dans lesquels l'indépendance interne a été renforcée, surtout les pays où les conseils de justice sont formés par tous les juges, par les juges même du grade, du rang inférieur. C'est un point. Et on peut même avoir une situation dans laquelle la promotion ou l'affectation d'un juge de la Cour de cassation est décidée même par des juges qui viennent d'un tribunal de premier degré. C'est bien sûr une situation qui change complètement la tradition hiérarchique de cette magistrature. Alors, les points que je voudrais souligner, c'est que cet renforcement de l'indépendance judiciaire, surtout de l'indépendance externe, a provoqué des conséquences intéressantes, pas seulement du point de vue des relations avec les autres pouvoirs, ça c'est un point que je vais reprendre plus avant, mais favorisé un changement dedans les corps judiciaires. Pourquoi ? Parce que l'institution des conseils de justice a été prévue avec une composante, je vous disais avant, une composante de juges élus directement par les autres juges. Alors, une dynamique électorale, si vous voulez, s'est développée dedans le corps judiciaire. Ça, c'est un point intéressant, parce qu'a provoqué, ou a favorisé, provoqué, c'est pas juste, a favorisé l'émergence et la formation des groupes d'associations de juges. Il y a des pays où il y a seulement une association de juges, mais il y a beaucoup de pays, l'Italie, bien sûr, c'est le cas plus étonnant, mais la France, l'Espagne, le Portugal, je ne sais pas, la Belgique, je ne sais pas, où il y a plusieurs associations des magistrats, des juges, avec des, comment on dit, des points de vue un peu différents sur ce que doit être le rôle du juge dans les systèmes politiques, mais surtout cette association ont un rôle important parce qu'ils jouent, ils participent aux élections internes pour la désignation, pour l'élection des composantes judiciaires de Conseil de justice. Et cette dynamique électorale a été associée, je ne dis pas qu'elle a provoqué, mais a favorisé un réfléchissement sur le rôle du juge et, si vous voulez, une définition toujours plus activiste du rôle du juge. Et quand je dis une définition plus activiste, une définition qui met l'accent sur le fait que le juge se trouve à créer du droit et doit créer les droits et doit créer les droits en certains cas même en opposition au pouvoir politique traditionnel. Ça, c'est un point qu'on peut retourner sur ça si vous voulez, parce que c'est un point compliqué qui est relié à des autres, surtout à la nature du contrôle judiciaire de constitutionnalité et à l'évolution du contrôle judiciaire de constitutionnalité aujourd'hui. Mais cette transformation qui a touché beaucoup de pays, j'avais préparé un tableau, mais j'ai pas averti qu'il y avait un tableau à projeter avec PowerPoint, alors on peut pas. Mais si vous voulez, on peut parler des cas. Mais les tableaux, c'est intéressant parce qu'ils montrent la transformation des systèmes judiciaires de l'Europe continentale et surtout des relations intéressantes entre cette transformation et la perception de la magistrature dans les pays. Bon. Parmi les gens des différents pays. Alors, cette transformation a été importante en Europe, et c'est une transformation qui a été, soutenue, pas seulement dedans les pays, mais à l'extérieur des pays, par les rôles des différentes institutions internationales. Il y a, je dirais, au moins trois facteurs qui poussent envers cette renforcement de l'indépendance judiciaire. Alors, un facteur interne, bien sûr, je l'ai déjà dit, les associations des juges qui aujourd'hui sont très souvent reliées au niveau européen. Il y a même des institutions formelles, il y a les conseils consultatifs des juges européens auprès du Conseil d'Europe qui jouent un rôle de ce point de vue. Le deuxième groupe d'institutions sont les institutions européennes, les conseils d'Europe surtout, avec même le rôle de la commission de Venise qui donne des avis, vous savez, sur la correspondance entre l'arrangement des institutions des pays qui font part du conseil et la Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons même l'Union européenne qui pousse dans cette direction, vous savez, avec des différentes actions. Et troisième, il y a même, à un niveau pas seulement européen, mais mondial, il y a une forte poussée en cette direction par des institutions comme la Banque mondiale. La Banque mondiale, dans les dernières 20 années, a, mis l'accent sur l'importance de l'indépendance judiciaire. L'idée, c'est que l'indépendance judiciaire, c'est un des éléments importants de l'état de droit, je dirais, des rule of law, et je suis d'accord avec Julie, ici, on pourrait discuter de ça, peut-être je partage la position que l'état de droit n'est pas la traduction exacte de la rule of law, mais en tout cas, la Banque mondiale a mis l'accent sur la nécessité d'avoir un système judiciaire qui soit incorrupt, qui peut, produire des décisions claires, reliable, comment on peut dire,
de confiance.
Avec de la confiance, et que les juges, et pardon, pour avoir un système judiciaire qui marche en cette façon, il faut avoir des juges indépendants. Alors les conseils, même la Banque mondiale a poussé dans cette direction. La rule of law, oh, c'est un instrument important pour favoriser la croissance économique. Alors ça, c'est, il y a même cette rôle à souligner. Alors, tout ça a apporté à cette réforme qui ont, on dit, soutenu, élargi l'indépendance judiciaire. Le point, c'est que quand on discute d'indépendance judiciaire, je l'ai fait dans cette quart d'heure, normalement, on entend des choses un peu différentes. Il y a des ambiguïtés dans les conseils d'indépendance judiciaire sur lesquels il faut réfléchir un peu. Normalement, indépendance judiciaire, on se réfère au moins à deux choses. D'un côté, avec indépendance, comme je l'ai fait dans ma présentation jusqu'ici, on se réfère à relations entre les juges et les autres pouvoirs de l'État. Ça, c'est l'indépendance externe des juges. On se réfère à des relations institutionnelles. Et le point qui est plus touché, c'est les statuts du juge. Mais l'indépendance, quand on parle d'indépendance, très souvent, on parle même, on se réfère même à une autre chose, à les comportements indépendants du juge. En effet, ce n'est pas correct de parler du comportement indépendant du juge parce que on ne s'attend pas que le juge se comporte d'une façon indépendante, mais si vous réfléchissez un peu, vous pouvez réaliser qu'on s'attend que les juges se comportent d'une façon impartiale. Ça, c'est le point. On peut dire que l'indépendance institutionnelle, l'indépendance comme statut, c'est un moyen pour avoir le but, pour avoir un juge impartial, un juge qui se comporte d'une façon impartiale. Pourquoi c'est important d'avoir un juge impartial? Pour beaucoup de raisons, mais la raison plus importante, c'est qu'un juge impartial, c'est un juge qui paie, dont la décision sera plus facilement acceptée par les parties. Ça, c'est le point plus important. Alors, l'indépendance, c'est un moyen en vue d'un but à obtenir. Alors, et normalement, quand on parle d'indépendance, on mêle ces deux dimensions. La dimension institutionnelle, le statut du juge, et la dimension, je dirais, comportementale. Le comportement impartial de juge. Les raisonnements qui est derrière les réformes dont on a parlé avant, c'est qu'en renforçant l'indépendance institutionnelle du juge, on peut obtenir, on peut favoriser un comportement, l'impartialité du juge, un comportement impartial du juge. Ça, c'est le point plus important. La relation entre indépendance institutionnelle et indépendance comportementale, ou mieux, impartialité. Il est clair que l'indépendance institutionnelle, si vous voulez, c'est une condition nécessaire parce que les juges puissent se comporter d'une façon impartiale. Un juge qui dépend d'un des partis ne peut pas être, et je dirais surtout ne peut pas apparaître indépendant, s'il dépend. Et quand nous avons des questions qui sont plus ou moins directement reliées à la décision politique, est clair que l'indépendance du juge a une dimension politique. On peut penser au procès pénal ou au procès dans lequel le procès administratif ou le procès dans lequel il y a un enjeu politique important. Alors, les points à analyser, c'est si cette réforme judiciaire qu'on a introduite en Europe d'une façon différente entre différents pays, je vous dirai des choses sur ça dans quelques minutes, cette réforme qui a en partie changé l'arrangement traditionnel du juge, si cette réforme a effectivement eu l'effet qu'on s'attendait. Si les renforcements de l'indépendance judiciaire institutionnelle a produit, si vous voulez, une amélioration ou renforcement de l'indépendance comportementale, de l'indépendance de l'impartialité. Alors, je vous dis avant que c'est très difficile à vérifier cette proposition, c'est pas facile, mais je vais essayer à faire à vous donner des éléments avant, mais parce que normalement c'était la chaîne des relations, c'est une chaîne très compliquée, mais j'essayerai à vous donner des données dans quelques minutes. Avant de dire ça, je dois souligner que les réformes judiciaires dont je parlais ont été réalisées d'une façon différente dans les pays de l'Europe, dans les pays européens. Alors, ce sont les pays, je les appelle les pays napoléoniens, peut-être les pays qui ont fait des réformes plus profondes. Les pays napoléoniens sont les pays qui avaient traditionnellement un arrangement de la magistrature à la française, si vous voulez, qui prenait des réformes de Napoléon, des réformes faites par Napoléon pendant la période impériale. Napoléon est le premier, je dis. Alors, ça c'est la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et peut-être la Belgique, moi, de ce que je connais. Mais je ne vais pas entrer dans un terrain dans lequel je suis pas, je suis un peu ignorant. Sont les pays de l'Europe latine, peut-être, même l'Angleterre a fait des réformes assez profondes dans les dernières 10 années, avec la réforme de 2005. Et après, les autres pays qui ont fait des réformes assez profondes sont les pays de l'Europe, de l'Union européenne, qui venaient des régimes, d'anciens régimes communistes, les pays de l'Europe centrale et orientale. Les réformes plus profondes, on peut les trouver ici, dans l'Europe latine et dans l'Europe, dans la nouvelle Europe. Les raisons sont peut-être intéressantes. Les raisons pourquoi l'Europe latine, c'est intéressant parce que peut-être dans l'Europe napoléonienne, le modèle napoléonien a été critiqué, a été considéré pas suffisamment protégeant l'indépendance des juges. Dans les pays de l'Europe, de la nouvelle Europe, pour des raisons plus claires, parce que c'était des pays qui venaient d'un régime dans lequel il n'y avait pas d'indépendance des juges, c'était une chose complètement qui n'était pas part de la C constitutionnelle de ces pays. Et alors, ils ont dû changer, ils ont dû introduire des réformes plus profondes. Alors, dans les pays, tandis, alors, si dans ces pays, on a eu les changements plus profonds, dans les pays, allemands et scandinaves, les réformes ont été beaucoup plus limitées. Les réformes dans ces pays, Allemagne, les pays scandinaves, Danemark, Finlande, Suède, ont été des réformes très limitées. Il n'y a pas là-bas des conseils de justice du modèle méridional avec une composante élue par les juges. Ils ont fait des réformes, surtout des réformes de managériales. En Suède, en Danemark, ils ont introduit des réformes managériales, mais pas beaucoup de réformes qui ont augmenté l'indépendance. Si je me rappelle, jusqu'à l'année dernière, parce qu'ils ont fait une réforme l'année dernière, les Suédois, les juges de la Cour suprême de Suède étaient nommés par le gouvernement. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes. On parlera de ça. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont introduit un conseil qui donne des avis, alors c'est un peu plus compliqué. Mais il n'y avait pas. C'est une situation pour nous qui vivons dans la tradition napoléonienne un peu étonnante. Alors, nous avons ici une situation un peu différente. les pays napoléoniens et de l'Est qui ont fait des réformes assez profondes, les pays allemands et scandinaves qui ont fait des réformes plus modérées, plus réduites. Quels sont les résultats de cette réforme? Avant, je disais, les points à explorer, c'est la relation entre indépendance institutionnelle et indépendance impartialité. C'est pas facile de vérifier cette proposition. Ce que j'ai fait, que je suis en train de faire, c'est d'utiliser de certains indicateurs qui sont toujours, bien sûr, toujours des indicateurs provisoires, insuffisantes, qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de prudence. Mais j'ai employé deux types d'indicateurs. Le premier, c'est une évaluation qui est faite chaque année avec un sondage sur l'impartialité des cours. Et ce sont des sondages qui ont une certaine, comment on dit, profondité longitudinale, et ce sont 12 ans. Et ces sondages sont des sondages dans lesquels on demande aux gens, je vous dis qui sont les gens qui répondent, parce que ça c'est le point, si dans leur pays ou dans ce pays, la magistrature, le juge est vraiment indépendant, il donne une décision impartiale, et ça. Et ça c'est intéressant parce que les résultats, j'avais la table, si vous voulez, j'avais donné, mais je vous raconte la table. Les résultats sont très intéressants parce que les pays dans lesquels l'évaluation c'est meilleur sont exactement les pays allemands et scandinaves. Alors les pays où il y a moins de points, moins de réformes et moins d'indépendance sont les pays dans lesquels les gens disent « Ah oui, ici il y a beaucoup d'indépendance ». Ça, c'est le premier indicateur, et c'est un indicateur qui a des problèmes parce que le sondage s'est fait entre un échantillon de businessmen. C'est par le World Economic Forum. Et alors, vous savez, les points de vue des businessmen, des hommes des affaires, c'est un point de vue qui peut être un peu, comment on dit,
orienté.
Oui, dévié.
Dévié. Ah, bien sûr, pour des raisons très claires, parce que l'homme d'affaires est intéressé peut-être aux questions de business, n'est pas intéressé à la protection des droits fondamentaux, c'est pas. Alors je l'ai employé parce que c'est le seul analyse, sondage qu'on peut trouver qui touche tous les pays pour une période de temps assez, pour 12 ans. 13 ans, alors il n'y a pas d'équivalent. L'autre équivalent, mais il y a un autre équivalent qui n'est pas seulement le même, que c'est les sondages faits par les eurobaromètres, qui est fait, vous savez, l'eurobaromètre c'est un sondage fait par la Commission européenne presque toutes les années, dans laquelle on fait beaucoup de questions, on pose beaucoup de questions à tous les citoyens, des échantillons des citoyens européens, et il y a une question spécifique dans laquelle on demande est-ce que vous avez de la confiance, plutôt de la confiance ou non, dans les gouvernements, les parlements, la justice, les partis politiques, blablabla. Ça, c'est un peu plus. Bien sûr, on demande si on a de la confiance. On demande pas si, mais on peut dire que si les citoyens ont de la confiance, il est probable qu'ils auront de la confiance parce qu'ils croient que les juges soient impartiaux. C'est un peu, on peut discuter, mais la relation c'est peut-être probable, pas sûr, mais probable. Et même les résultats de cette analyse, on a même ici, on a beaucoup de sondages, on commence à la moitié des années 90, mais j'ai employé seulement les sondages de 2003, parce qu'avant il n'y avait pas les pays de l'Est, et on voit très clairement la situation, c'est plus ou moins la même. Les pays dans lesquels les citoyens croient qu'ils ont plus de confiance dans les juges, dans le système judiciaire, sont les pays scandinaves, les pays allemands, l'Autriche, beaucoup, l'Autriche a un niveau très élevé. Ce n'est pas une question religieuse, parce que l'Autriche c'est catholique, mais à un niveau extrêmement élevé. Et c'était intéressant, jusqu'à 2 ans, 3 ans, un autre pays avait un niveau très élevé de confiance dans la justice, qui n'était pas allemand ni scandinave, jusqu'à 2009-2010. Après, il a eu une chute très forte. Un petit pays du sud, la Grèce. Ça, c'est un cas toujours intéressant. Des collègues grecs m'ont dit parce que la Cour suprême grecque avait maintenu une attitude assez ferme pendant la dictature des colonels. Et ça a été... Bon, je ne sais pas. Je l'ai demandé à des collègues grecs, ils m'ont donné cette... Parce que c'était vraiment étonnant. Elle est baissée dans les données avec la crise économique. La crise économique a touché tous les pouvoirs de l'État, tous les pouvoirs, alors ça c'est peut-être c'est une autre chose. Alors, même la confiance dans la justice a baissé beaucoup en Grèce. Mais jusqu'à 2009, la Grèce était plus ou moins comme l'Autriche. C'était un niveau. Alors, retourner sur mon point, la relation entre réforme et satisfaction des citoyens, c'est une relation assez faible. Je ne dis pas que c'est faible. Je fais même une corrélation qui n'est pas vraiment valable, mais c'est légèrement négatif. Ça veut dire que où il y a moins d'indépendance, il y a plus de confiance et vice-versa, ou moins. En effet, cette donnée n'est pas étonnante, n'est pas vraiment étonnante, pour une raison très simple, que si dans un certain pays, il y a une situation d'homogénéité culturelle, ou quand nous allons dans les systèmes judiciaires, il y a des pratiques entre les juges et les pouvoirs politiques, les gouvernements, les parlements, des pratiques par lesquelles l'indépendance des juges est en effet respectée des faits. Alors, dans ces pays, il n'y a pas besoin de réformes, parce que tout marche bien. Pourquoi faire des réformes dans ces pays? On laisse l'arrangement traditionnel. Les gouvernements nomment les juges, mais ils nomment des juges sans avoir des arrière-pensées politiques. Et ça, c'est probable la situation des pays scandinaves, des pays dans lesquels il n'y a pas vraiment un problème d'indépendance judiciaire, parce qu'il n'y a pas un problème de tension entre les pouvoirs de l'État. Il y a une situation d'homogénéité culturelle, relative homogénéité culturelle, et alors il n'y a pas de réforme. Alors là-bas, il n'y a pas de réforme exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau élevé de confiance dans la justice. C'est pas, on peut inverser. La relation causale, c'est inverse. C'est pas les réformes qui produisent ou pas la confiance, c'est la confiance qui peut-être rend les réformes non nécessaires. Alors, je crois que les réformes qu'on fait en Suède sont des réformes qui ont été poussé par l'extérieur, je crois, par les conseils d'Europe qui a fait un peu de pression sur la Suède, sur cette question de la nomination des juges de la Cour suprême. Alors, les pays de l'Europe de l'Est nous donnent aussi des éléments intéressants. Ces pays sont encore plus intéressant parce que dans ces pays, nous avons une situation, dans les dernières 20 années, nous avons une situation qu'un sociologue, je dirais, est presque un expériment. On a pris 10-11 pays, aujourd'hui 11 avec la Croatie, et en 7 pays ont été, comme on dit, soumis à un traitement plus ou moins homogène. Des réformes, dans ce cas des réformes judiciaires. Plus ou moins, l'indépendance judiciaire a été augmentée dans tous les pays de l'Europe de l'Est, tandis avec des décalages. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile de donner des résultats complets parce qu'il y a des décalages entre les différents pays, mais tous les pays de l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et orientale, qui aujourd'hui font part de l'Union européenne, ont fait des réformes profondes de la justice. Et intéressant, il y a ici des résultats assez différents, mais peut-être sont des résultats qui sont peut-être conditionnés par le passé. Alors, il y a, si vous voulez, les cas positifs, les cas dans lesquels on a aujourd'hui la confiance des citoyens est élevée, et surtout, ce sont des pays où la confiance des citoyens dans la justice est augmentée dans les dernières 10 années. Ça, c'est un point intéressant. Et sont la Pologne et l'Estonie. Ce sont les deux pays dans lesquels on a eu. Et il y a les pays dans lesquels la situation c'est encore un peu pas complètement positive. Ce sont la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie. Ce sont les trois pays qui ont plus de problèmes de ce point de vue. Mais peut-être ces problèmes sont même dus au fait que la Bulgarie et la Roumanie, vous savez, sont entrés plus tard dans l'Europe et alors avec des problèmes. Et alors peut-être ça, c'est un point. Alors, le premier point que je veux dire, la relation, je retourne un peu sur mon point que j'avais présenté avant. La relation entre les réformes judiciaires et les résultats, entre l'indépendance institutionnelle et l'indépendance comportementale ou l'impartialité, ce n'est pas une relation étroite, c'est une relation complexe. C'est pas donné qu'une augmentation de l'indépendance institutionnelle va produire dans un délai de temps une augmentation, un amélioration de la confiance dans la justice. Là, il y a même, bien sûr, il y a l'objection que je faisais avant. Il y a la situation dans laquelle cette relation faible qu'on a vue, c'est une relation qui peut être due au fait que je disais avant, au fait que dans les pays dans lesquels il y a une confiance assez élevée dans la justice, il n'y a pas besoin de faire des recherches. Il y a même un autre point qu'il faut regarder, et c'est le point qui considère l'indépendance interne. Avant, j'avais présenté la distinction entre indépendance externe et indépendance interne. Si on fait une évaluation de la relation entre indépendance interne et confiance dans la justice, cette relation est plutôt négative. Elle est beaucoup plus négative que la relation avec l'indépendance interne. Bien sûr, même ici, peut-être que la relation soit due au fait que dans les pays où il y a une situation plus difficile, une situation de confiance mineure, alors ce sont les pays dans lesquels on fait les réformes pour essayer à augmenter. Et peut-être il faut attendre du temps pour voir l'effet complet de cette réforme. Mais il est clair que l'indépendance interne soulève un certain problème, un problème qui, je crois, que peut-être il faut attaquer d'une façon un peu plus complexe. L'indépendance interne, bien sûr, c'est un élément qui peut jouer un rôle ambigu. Alors, il est clair que le juge qui dépend pour sa carrière de notre juge, c'est un juge qui, dans un certain point, c'est pas un juge complètement indépendant. Alors, de ce point de vue, même l'indépendance interne, c'est une dépendance qui peut être importante pour avoir un juge impartial. Les problèmes se posent dans les pays où le recrutement de juges, c'est un recrutement qui est fait après l'université, ou dans tout cas c'est un recrutement qui est fait parmi des professionnels qui ne sont pas complètement formés. Et ça, c'est la question très souvent, pas toujours, mais très souvent, des pays de l'Europe continentale. Parce que les points que j'avais vous présenté au commencement de mon colloque, de mon séminaire, dans les pays des common law, où normalement l'indépendance interne est élevée, l'indépendance interne est élevée, et je parle surtout des juges anglais et des juges fédéraux américains, parce que les juges des États, c'est une autre question. On ne va pas discuter de ça, c'est une autre. Ils n'ont pas beaucoup d'indépendance, de ce point de vue. Mais ce sont des juges qui, normalement, ils sont nommés à une position, et il n'y a pratiquement pas de possibilité de promotion. Ou bien, on peut avoir une promotion, mais c'est une question vraiment, un cas assez rare qui ne peut pas influer sur, comme on dit, les comportements des juges. Les juges sont nommés à ces positions après avoir acquis une expérience professionnelle importante, normalement dans les barreaux ou dans le ministère public ou dans des autres, ou dans l'université ou dans des autres positions professionnelles. Alors, les juges de common law sont des professionnels des droits qui sont nommés juges, qui deviennent juges. Pour vous donner un chiffre, l'âge moyen de recrutement des juges anglais à la cour, à l'autre cour, c'est entre les 45 et 50 ans. Et plus ou moins la même chose, c'est aux États-Unis. Ce sont des juges qui ont fait déjà 20 ans au moins d'activité professionnelle. Alors, ce sont des juges dont on peut évaluer d'une façon très précise l'attachement à la profession, les qualités professionnelles. Il n'y a pas besoin d'autres vérifications après la nomination à juge. Oui, il y a les juges qui deviennent fous, bien sûr, mais vous savez, il y a toujours les juges qui deviennent fous, les juges qui sont malades, les juges. Allez, ce sont des cas assez rares. Et il y a, pour ces cas, il y a des procédures spéciales, exceptionnelles qui peuvent être décrites. Mais normalement, un juge de common law, c'est un juge qui a été déjà formé. Ça, ce n'est pas la situation dans beaucoup de pays de l'Europe continentale. Ici, je vous donne, j'espère, de ne pas abuser de votre patience, mais il y a en Europe continentale une autre division entre qui regarde même le recrutement des juges. Dans les pays napoléoniens, traditionnellement, le recrutement était après l'université. Il y avait peut-être une petite période d'apprentissage, et après il y avait les concours. Et encore aujourd'hui, que la France, je crois, c'est le pays dans lequel on peut devenir juge à 23, 24 ans, si je me rappelle, plus ou moins. L'Italie, un peu plus tard. Alors, dans l'Europe napoléonienne, les juges sont recrutés après l'université. Alors, comment faire à les recruter? On va évaluer la connaissance institutionnelle du droit, la connaissance universitaire. Bien sûr, dans les dernières années, on a fait des pas en avant. L'école nationale de la magistrature française fait des choses beaucoup plus sophistiquées. Il y a des essais à évaluer d'une façon plus meilleure. Mais ce sont des jeunes qui n'ont pas une expérience professionnelle significative, grande. Dans l'Europe allemande et scandinave, ce n'est pas complètement. La situation est un peu différente. Parce que c'est une situation, si vous voulez, et les Pays-Bas sont plus ou moins dans la même situation, c'est une situation à moitié entre l'Europe napoléonienne et les pays des common law. Parce que dans ces pays, normalement, les étudiants du droit, après l'université, ils font une période plus ou moins longue. Dans certains, en Suède, il est très long, et je crois qu'il est 8 ans, 10 ans. En Allemagne, c'est 3 ans, 4 ans. Une période de formation commune avec les avocats et avec tous les juristes. C'est les référendariats allemands, et après il y a des choses semblables dans tous les pays scandinaves. Alors il n'y a pas seulement l'université, mais il y a une période d'apprentissage pratique dans laquelle les diplômés en droit ont la possibilité de faire de l'expérience dans les différentes étapes, dans les différents bureaux, dans les tribunaux civils, pénal, dans les bureaux d'avocats. Ça, c'est une façon, si vous voulez, d'enrichir la formation professionnelle, la préparation professionnelle du juge. N'est pas comme au pays des common law, où il y a une expérience concrète, longue, mais n'est pas comme les pays de l'Europe napoléonienne, dans laquelle il y a un recrutement après l'université. Maintenant, aujourd'hui, on peut échanger un peu, mais toujours la structure, c'est plus ou moins ça. Alors, On peut. Alors, le problème, quel est le problème avec cette situation? C'est que quand on va recruter les juges après l'université, c'est plus difficile de vérifier leur capacité professionnelle. Parce qu'on va vérifier leur capacité, si vous voulez, universitaire, la capacité d'apprentissage théorique du droit, mais c'est beaucoup plus difficile de les vérifier. Normalement, traditionnellement, la carrière avait aussi, pas seulement, okay, avait deux buts, un but de contrôle politique, un but de contrôle professionnel, qui très souvent s'est mêlé. Alors, il y avait les contrôles politiques, parce que les juges qui faisaient des problèmes du point de vue du pays ne faisaient pas carrière. En Italie, il allait dans les îles, il allait en Sardaigne, il restait en Sardaigne, ou il allait dans les petits pays, je ne sais pas, en Belgique, en France, il allait en Corse, je ne sais pas, oui. Les juges politiquement difficiles ne faisaient pas carrière. Mais il y avait la carrière, avait même le but de vérifier d'une certaine façon la capacité professionnelle. Bien sûr, la vérification, c'est une vérification très insuffisante, ne vais pas vous ennuyer avec l'histoire, mais c'était une. Si on commence à démanteler la carrière, parce qu'on donne les pouvoirs de promotion à des conseils de justice qui sont élus en partie plus ou moins grande par les mêmes juges qui sont soumis à, comme on dit, à la vérification des professionnalités. Alors, vous savez, quand il y a cette situation, c'est plus difficile. Alors, si on commence à démanteler les contrôles traditionnels et on n'intervient pas, on ne va pas intervenir sur le recrutement, alors il y a le problème d'aggraver si vous voulez avoir un problème de qualité professionnelle des juges. C'est difficile à dire si l'augmentation d'indépendance judiciaire interne a provoqué déjà cette situation, mais ça c'est une hypothèse qu'on pourrait vérifier. Mais, alors, je vais conclure. 5 minutes et je finis. Pour essayer à conclure de cette question. Premier point, je répète, l'expérience européenne est une expérience extrêmement importante parce que la prescription des réformes judiciaires à l'européenne, c'est une prescription qui va se répandre dans des autres, dans plus ou moins, je dirais pas dans le monde, mais dans des autres continents, en Amérique latine surtout, et même en Asie. Je vous disais avant, la Banque mondiale désormais soutient en partie au moins les réformes judiciaires dont j'en parlais. Alors, l'expérience européenne, c'est important pour voir les qualités, les avantages et les désavantages de cette réforme, de cette stratégie. Alors, il faut premièrement souligner les avantages. Le renforcement de l'indépendance judiciaire, c'est un élément qui contribue à améliorer les contrôles sur le déroulement du pouvoir politique. Alors, de ce point de vue, il faut souligner que l'indépendance des juges, c'est un des moyens plus importants pour contrôler les pouvoirs politiques. Et donc, pour assurer une protection plus forte des droits des citoyens. Alors, de ce point de vue, il faut toujours tenir en compte cet point. En plus, du point de vue politique, on pourrait dire qu'un juge plus indépendant, un justice plus indépendant, ouvre un autre canal de participation politique, une autre voie de participation politique qui enrichit la démocratie. Alors, si vous voulez, c'est ici, un juge plus indépendant, c'est un juge qui peut donner plus facilement une réponse aux citoyens, mais peut aussi, comme on dit, influencer la décision politique. En mettant à l'ordre du jour des questions qui peut-être les autres pouvoirs ne sont pas capables ou n'ont pas l'envie de la mettre. Alors, c'est, si vous voulez, la redondance institutionnelle. Il y a beaucoup plus d'institutions qui les citoyens peuvent activer pour avoir des réponses. Alors, de ce point de vue, là, entreprise judiciaire, les pouvoirs judiciaires, le renforcement de du pouvoir judiciaire, c'est un élément, bien sûr, positif. Les problèmes dérivent de ce que je disais. Ça dépend du fait qu'augmenter l'indépendance institutionnelle des juges peut avoir des conséquences négatives du point de vue, par exemple, de la capacité professionnelle. Bon, il faut tenir en compte qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays de l'Europe continentale, on a introduit des réformes qui vont altérer la relation traditionnelle entre les pouvoirs de l'État. Je vous invite à faire un petit expériment. Je ne sais pas si vous avez, peut-être beaucoup de quelques de vous a lu les Federalists. Vous avez lu les Federalists, le nombre 78 sur la justice, sur l'indépendance. C'est formidable parce qu'il vous donne un test. Il y a un test qui Alexander Hamilton il propose pour vérifier si l'indépendance c'est correct au moins. Il dit toujours il défendait la nomination à vie des juges qui était attaquée à ce moment à Philadelphie. Il avait des tics qui disaient non, les juges doivent être élus. Il ne faut pas nommer des juges comme les rois. Non, il y avait on disait aujourd'hui une position de gauche démocratique qui ne visait pas. Alors Alexander Hamilton dit non, les juges ne sont pas dangereux pour les droits parce qu'ils n'ont pas ni l'épée et ni la bourse. Ils n'ont pas l'épée, ils n'ont pas le pouvoir exécutif et ils n'ont pas la bourse parce qu'ils ne peuvent pas toucher l'argent, toucher les budgets de l'État. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire la même chose. Ils n'ont pas, je parle pas de l'épée parce que ça voudrait introduire les problèmes du ministère public et je vais rester en dehors de cette discussion. C'est peut-être une autre discussion ou pour une discussion après. Mais la bourse désormais, les décisions de justice touchent la bourse. La bourse est très, d'un point de vue très, très, très forte. Pensez les cours constitutionnelles, bien sûr. Pensez à la cour constitutionnelle, l'importance des décisions de la cour constitutionnelle allemande sur les questions monétaires. Tout le monde est là qui attend la prochaine décision de la cour sur l'euro et avec ça. Et après, mais ça c'est peut-être le cas plus important, ça c'est une cour constitutionnelle. Mais pensez à toutes les décisions de la justice administrative sur questions qui regardent les welfare. Ou les providences, ou comme ça, ou les questions qui touchent sur les dépenses publiques. Il y a des centaines de décisions qui vont toucher. Alors, de ce point de vue, peut-être aujourd'hui, le test d'Alexander Hamilton a été dépassé. Les juges sont au bord de ne pas satisfaire les conditions qu'Alexander Hamilton présenté à défense de l'indépendance judiciaire. La bourse peut-être est déjà touchée. Et l'effet, ça c'est une autre question. Alors, bien sûr, le problème c'est qu'une augmentation très forte de l'indépendance peut mettre à risque la capacité professionnelle des juges, si surtout, et ça c'est le point que j'aimerais souligner peut-être d'une façon un peu trop forte, surtout si cette réforme va toucher l'indépendance interne dans des contextes dans lesquels le recrutement des juges est fait de la façon traditionnelle dont on la faisait dans l'Europe continentale, après l'université, sans avoir une expérience professionnelle assez attendue. Alors, en plus, on peut dire que l'indépendance accrue et la confiance d'un pouvoir plus important comme les pouvoirs des contrôles judiciaires, des constitutionnalités, c'est un élément qui met les juges très souvent à prendre des décisions extrêmement difficiles du point de vue des résultats, des effets qu'il peut avoir sur les systèmes politiques. Alors on peut douter si une formation traditionnelle comme la formation qui a été juridique, qui a été la formation des juges de l'Europe continentale pour les derniers deux siècles, c'est une formation qui est suffisante à l'aider à prendre cette décision si difficile. Alors, je conclurai en disant, d'un côté, le point c'est que les réformes judiciaires, si portées à un niveau trop élevé, peuvent mettre à risque la capacité professionnelle des juges. De l'autre côté, la situation dans laquelle les juges se trouvent très souvent à agir aujourd'hui, une situation dans laquelle ils doivent prendre des décisions beaucoup, beaucoup plus difficiles, c'est une situation dans laquelle leur capacité professionnelle doit être, comme on dit, améliorée, diversifiée, rendre plus complexe. Et tout ça, je dirais, beaucoup de réformes qu'on a vues dans les derniers 30 ans n'ont pas attaqué. Et bien, ça, c'est un point qui, je crois, reste à discuter. Merci pour avoir... J'espère que vous avez compris assez. Mon français est un peu hors des pratiques. Parce que c'est un peu, comme on dit, aboginito.
Je vais céder tout de suite la parole à Sébastien Brogenbrou qui a pris la parole, qui a posé des questions.
Alors, ça ne me dérange pas si je reste ici, comme ça je peux avoir mes papiers à portée de main et surtout à portée de vue.
Alors, moi, je m'assieds un peu.
Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité dans ce rôle de répondant pour un exposé d'une telle qualité, avec toute une série d'idées qui fusent de tous les côtés. Ça bouillonne et donc, forcément, je ne serai pas du tout en mesure de vous livrer quelque chose de parfaitement cohérent, mais plutôt un ensemble de réactions dont j'espère que elles pourront nourrir le débat. Alors je n'hésiterai évidemment pas à user un peu de provocation et de simplification, comme ça le débat n'en sera que meilleur, ou en tout cas c'est l'objectif poursuivi. Alors une première question, réaction, concerne évidemment les termes mêmes qui sont articulés. Comme l'indique le titre de votre conférence et comme le montre tout votre propos, il y a une espèce de relation d'amour-haine entre l'indépendance du juge d'un côté et la démocratie d'un autre côté, qui fait que, sans se contredire, on peut se demander si l'indépendance du juge est une ressource pour la démocratie ou au contraire un danger pour celui-ci. Alors à mon avis, cette relation d'amour-haine et ce paradoxe vient tout simplement du fait que les termes mis en équation ou en relation sont eux-mêmes des termes foncièrement polysémiques. L'indépendance du juge, comme vous l'avez dit, ça recouvre plein de choses. C'est l'indépendance institutionnelle, c'est l'indépendance comportementale, c'est l'indépendance externe, c'est l'indépendance externe. Que dire du concept de démocratie qui peut recouvrir aussi toute une série de choses. Si on prend par exemple la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme a tenté de définir la démocratie dans son arrêt sur le parti de la vertu turque, on a un espèce d'énorme inventaire à la Prévert avec des tas d'idées dont certaines sont plus ou moins compatibles avec l'idée d'indépendance. Selon qu'on prenne une forme de définition de la démocratie ou une autre, on a un rapport de compatibilité ou au contraire de tension plus ou moins accentuée. Si l'on prend la définition de la démocratie, vais-je dire classique pour tout simplifier, comme étant celle du pouvoir du démos d'avoir le dernier mot sur la décision publique et de cette signification aussi qui veut que tout titulaire de décision publique soit ultimement responsable devant le démos ou en tout cas devant ses représentants élus, alors il y a effectivement une tension essentielle et nécessaire qui peut exister entre l'indépendance du juge et la démocratie comprise en ce sens. Si par contre on définit la démocratie plutôt sous son aspect rule of law, d'égalité devant la loi, d'application identique de la loi pour tous, alors il y a plus du tout cette tension essentielle entre l'indépendance du juge et la démocratie, mais au contraire une alliance, en tout cas théorique, une alliance des possibles, Et c'est ce que disait la Cour de cassation belge dans un de ses plus célèbres arrêts des deux décennies précédentes, qui était le célèbre arrêt Spaghetti, l'arrêt Conrod sur la dessaisissement du magistrat instructeur de l'affaire des enfants disparus. Il disait ceci: l'impartialité des juges est une règle fondamentale de l'organisation judiciaire. Elle constitue, avec le principe d'indépendance des juges à l'égard des autres pouvoirs, le fondement même non seulement des dispositions constitutionnelles qui règlent l'existence du pouvoir judiciaire, mais de tout État démocratique. Les justiciables y trouvent la garantie que les juges appliqueront la loi de manière égale. Donc une alliance forte, évidemment, ici, entre cet aspect de la démocratie et l'indépendance du juge. Mais il reste évidemment une ambiguïté, et l'ambiguïté on la retrouve dans un débat qui a eu lieu entre deux constitutionnalistes il y a de ça quelques années, quand on a célébré les 4 ans du Conseil supérieur de la justice qui a été institué par la révision constitutionnelle de 1998 en Belgique. Donc en deux mots, le Conseil supérieur de la justice maintenant joue un rôle de tout premier plan dans le recrutement au sein de la magistrature judiciaire, en tout cas, puisqu'il sera chargé ultimement de présenter au roi un candidat en vue de sa nomination, que ce soit au siège ou dans la magistrature debout, et le roi n'aura d'autre pouvoir qu'éventuellement de refuser le candidat. Donc c'est évidemment une réforme tout à fait fondamentale que le Conseil d'État avait décrit de manière fort imagée mais fort juste en disant ceci: ce système, donc de nouveaux recrutements, traduit l'intention de confier dans une large mesure la responsabilité de la nomination des juges et d'autres membres de la magistrature à un organe institué par la Constitution et composé de manière paritaire de membres du pouvoir judiciaire et de membres désignés par le pouvoir législatif. Et on décrit le rôle du roi, du pouvoir exécutif dans ce nouveau schéma, comme un simple rôle rectificatif. C'est juste le pouvoir de dire non, et encore de dire non une fois. Alors, il y a là, évidemment, toute une nouvelle balance des responsabilités, et certains auteurs, je lis un constitutionnaliste, Paul Van Orsoven, a dit c'est un déficit démocratique, parce que le Conseil supérieur de la justice, il n'est pas responsable devant la Chambre des représentants, seuls les ministres le sont. Alors, c'est vrai que le ministre va contresigner l'acte du roi, mais ce n'est pas lui qui décide. Ce contre-saint d'un simple petit pouvoir rectificatif, ça n'a plus aucune signification politique. Et donc, définitivement, on a perdu quelque chose en termes de responsabilité et de démocratie. Ce à quoi, et ça c'est sans doute la vision classique de la démocratie qui était derrière tout cela, ce à quoi un autre constitutionnaliste, Jean-Claude Scholzem, répondait ceci: le déficit, si déficit il y a, est-il si grand ? Faut-il opposer le Conseil supérieur de la justice à l'image fortement stylisée, sinon idéalisée, d'une démocratie parlementaire telle que depuis longtemps elle ne fonctionne plus ? Loin d'être un déficit, le Conseil supérieur de la justice me paraît au contraire être emblématique d'une démocratie polycentrique et consensuelle, faisant place à des corps divers qui, il est vrai, ne s'inscrivent pas dans le schéma classique de la séparation des pouvoirs. Donc une toute autre manière d'entrevoir la relation en fonction de la définition que l'on donne de la démocratie. C'est un premier point de réflexion que je voulais vous livrer. Un deuxième point de réflexion concerne toujours cette tension nécessaire qui existe entre une forme d'indépendance du juge et une forme de démocratie. C'est clair que l'indépendance institutionnelle qu'on va garantir aux juges et aux juridictions va induire une perte de contrôle de la part du pouvoir politique sur les juges, sur les juridictions et forcément sur les décisions des juges et des juridictions. Une perte de contrôle qui est inévitable et qui doit s'inscrire dans ce que Daniel Lochak appelle l'équilibre fragile entre cette nécessaire indépendance et d'un autre côté le souci de ne pas voir un juge qui n'est pas responsable politiquement se voir doté de pouvoirs excessifs. Donc un équilibre difficile, mais au cœur d'une tension qui est nécessaire si l'on veut que les juges soient indépendants. Là, cependant, où il y a une perte de contrôle qui est non nécessaire, c'est dans certains phénomènes contemporains de l'activité législative et constitutionnelle. Je veux dire, parfois, le pouvoir politique se plaindra d'une perte de pouvoir face au juge dont il est entièrement responsable et qui n'est pas une perte nécessaire. Je vise tous ces cas où le pouvoir constituant ou le pouvoir législatif renvoie carrément la patate chaude au juge pour ne pas devoir trancher lui-même des questions dont il a pourtant la légitimité et la responsabilité de les trancher. Je donne un exemple au niveau constitutionnel. On crée la Cour constitutionnelle belge en 1980. En 1988-89, on lui donne les premiers pouvoirs dont elle dispose en matière de protection des droits et libertés, mais on se limite à une facette seulement, le principe d'égalité. Et on voit dans les travaux préparatoires que l'on se promet éventuellement d'aller plus loin, mais quand la Constitution sera prête pour aller plus loin. On ne vous l'a pas donné à la Cour constitutionnelle tout de suite le rôle de gardienne de tous les droits et libertés de la Constitution belge, parce qu'on se disait que ces droits et libertés n'étaient pas adaptés encore. Ils étaient un peu vieillis. Il fallait moderniser le système de limitation aux droits et libertés pour avoir vraiment des outils opératoires à confier à un juge et éviter que celui-ci ne se trouve investi d'un pouvoir trop important. Donc on se dit, on va d'abord moderniser et puis on étendra les compétences de la Cour constitutionnelle. En fait, on a fait l'inverse. On a étendu les compétences de la Cour constitutionnelle, finalement, et on n'a rien modernisé du tout. Alors, il faut savoir qu'entre 2004 et 2007, il y a eu des travaux de modernisation. On s'est dit, mais si on mettait un peu par écrit dans la Constitution tout ce que les juges ont pu dire sur les libertés constitutionnelles, si on tranchait des débats, et ça a été le haussement d'épaules généralisé à la Chambre des représentants, on s'est dit, mais enfin, ça fonctionne très bien comme ça. Donc, une véritable abdication en se disant, on ne va pas rentrer inutilement dans toute une série de controverses, laissons les juges s'en occuper. Ça, c'est au niveau constitutionnel, et donc c'est un abandon de pouvoir, si je veux dire, qui n'est pas nécessairement lié à l'indépendance des juges, c'est plutôt une castration de la part de pouvoir politique, une autocastration. Un autre exemple est typique, c'est l'article 141 ter du Code pénal. Donc on a maintenant dans le Code pénal toute une série de dispositions réprimant les infractions terroristes. Et ce sont des dispositions législatives qui sont très offensives pour les droits et libertés, pour la liberté d'expression, le secret de la correspondance, etc. Alors le législateur, quand il a commencé à introduire ces dispositions, parce que c'était par vagues successives dans le Code pénal, s'est parfois inquiété de la compatibilité de tout ça avec les droits et libertés. Mais au lieu de poursuivre le débat, patate chaude au juge, il a simplement inséré à la fin du chapitre concerné du Code pénal une disposition qui dit courageusement ceci: aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver sans justification des droits et libertés fondamentales tels que le droit de grève, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien du tout, parce que c'est évident qu'une loi ne peut pas être appliquée de manière contraire au traité ou à la Constitution. Mais c'est très significatif du fait que le législateur lui-même n'a pas voulu essayer de faire l'arbitrage. Il a dit au juge, débrouillez-vous, vous avez ma loi, vous avez des traités à respecter, agencez-nous tout ça, et moi, comme ça, je m'administre à moi-même un Prozac législatif, comme ça, j'ai l'esprit tranquille, je vous ai dit de faire attention. Donc ça, c'est un deuxième élément de réflexion que je voulais livrer sur cette espèce de tension, cette espèce de lutte, cette espèce de jérémiade qu'on entend parfois sur l'abandon du pouvoir des juges. Ben parfois c'est un abandon consenti qui n'a rien de nécessaire. Enfin, la troisième réflexion que je voulais introduire, elle questionne même l'agencement de toute la réflexion d'aujourd'hui. Donc, si je contemple le titre, on a l'impression qu'en fait, l'indépendance du juge aujourd'hui, elle est acquise, elle est certifiée, elle n'est pas contestée. Et la question prioritaire à se poser, c'est de savoir si on ne va pas trop loin par rapport à l'idéal démocratique. Moi, je voudrais m'attaquer à la prémisse en disant, est-ce que l'indépendance du juge aujourd'hui, en 2013, est encore tellement bien assurée sur cette base, en théorie et en pratique? Alors, en théorie, je pense que jamais auparavant, les standards européens et internationaux de protection de l'indépendance des juges n'ont été aussi forts et aussi denses. Au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a l'article 6, le tribunal indépendant et impartial. Ça ne dit pas grand-chose, un tribunal indépendant. Tout le détail, en fait, des exigences d'indépendance, on les trouve dans tous ces instruments de droit mou que vous avez cités, la charte européenne sur le statut des juges, tous les travaux de la Commission de Venise, très précis, tous ces textes qui vous disent, par exemple, qu'un Conseil supérieur de la justice, ça doit être plus ou moins équilibré en termes de composition entre juges et non-juges, pas trop de politique, etc. Alors tout ça, c'est du droit mou, et c'est là que se trouve la précision. La particularité du droit, des droits de l'homme contemporains, c'est que tout le mou devient dur. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, utilise maintenant couramment tous ces textes dont les auteurs n'ont pas de pouvoir juridiquement contraignant pour interpréter la Convention. Il y a un des arrêts les plus remarquables en la matière, c'est un arrêt de janvier 2013, où la Cour européenne des droits de l'homme a complètement mis par terre tout le système judiciaire ukrainien. Au départ de l'affaire qui concernait la révocation d'un juge à la Cour suprême, la Cour européenne des droits de l'homme en est venue à juger que la procédure suivie pour contester cette révocation, c'était la révocation de M. Oleksandr Volkov, toute cette procédure n'était pas conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et tout a été démoli. Le Conseil supérieur de la justice ukrainien, la Cour suprême administrative, toute la chaîne a été démolie. Comment ? À l'aide de l'article 6 de la Convention, mais surtout à l'aide de la Charte européenne sur le statut des juges, de l'avis que la Commission de Venise avait donné sur la loi ukrainienne qui mettait tout ça en place, d'un rapport établi par le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Hammerberg, à propos de tout ça. Donc c'est tout ce droit mou qui s'est mis au service d'une condamnation bien dure de la Cour européenne des droits de l'homme. Et au final, la Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt, dit « Vous allez tout revoir, tout remettre en chantier. » En fait, l'Ukraine avait déjà commencé à le faire. Tout revoir en prenant en considération l'arrêt que je viens de rendre, les autres arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'indépendance des juges, plus toutes les recommandations pertinentes du comité des ministres. Donc la recommandation de 2010 sur l'indépendance des juges, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme dit aujourd'hui tout ça c'est du dur, tout ça ça doit être respecté comme la Convention européenne des droits de l'homme doit être respectée sous ma garde. Alors donc tout ça est sans doute réjouissant, mais ça c'est le droit tel que la Cour européenne des droits de l'homme essaye de l'appliquer. Qu'en est-il dans la pratique? Et c'est là que je vais quand même mettre quelques notes éventuellement un peu désenchantées. Je pense qu'on assiste aujourd'hui en Europe, au niveau européen et au niveau national, à des phénomènes auxquels on n'aurait pas assisté il y a encore une dizaine d'années, de contestation ouverte et franche de l'indépendance des juges au nom d'un idéal démocratique et aussi, ce qui est plus grave, parce que c'est vraiment une dérive populiste, au nom d'un ras-le-bol qu'éprouverait l'opinion publique vis-à-vis de certains juges. On essaie de monter un peu l'opinion publique contre les juges. Alors le juge contre lequel on essaye de monter pour l'instant, c'est très clairement la Cour européenne des droits de l'homme. Je veux dire, dans certaines, précisément la gardienne de ce droit dur, voit elle-même son indépendance contestée, voit elle-même sa capacité de décision remise en cause. Il y a certaines capitales nationales qui en ont fait un sport officiel maintenant de critiquer la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense évidemment au Royaume-Uni, avec une autorité exécutive qui s'est fait complice d'une campagne de presse qui est allée jusqu'à l'insulte raciste à l'égard du président de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense également plus récemment au cas de l'Espagne, quand la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il fallait libérer Madame Del Rio Prada. Il y a quand même toute une manifestation à Madrid avec un chef de gouvernement qui a dit que cette décision était injuste. Alors, je ne dis évidemment pas qu'il faut que toute cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est parole d'évangile, on n'a pas le droit de contester. La particularité ici, c'est que l'on conteste non pas du tout de manière argumentée, on conteste l'autorité, tout simplement. Le message, c'est laissez-nous tranquilles, laissez-nous décider nous-mêmes et ne venez pas nous mêler de vos affaires. Donc c'est une contestation franche, je trouve, de la capacité de décision qui n'a rien d'argumenté. Il y a parfois d'autres contestations de juges nationaux vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont des contestations argumentées. Ça dialogue, la Cour européenne des droits de l'homme entend, ajuste le titre. Ici, c'est vraiment une contestation à l'état pur. Alors pour l'instant, ça reste politique, mais je pense que quand même cette contestation politique a reçu des traductions juridiques qui sont inquiétantes. Je veux dire, il y a un nouveau protocole maintenant qui est en chantier au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et qui vise à insérer en toutes lettres dans la Convention européenne des droits de l'homme l'idée que la Cour européenne des droits de l'homme doit respecter une marge d'appréciation des États dans la manière dont elle juge et doit respecter le principe de subsidiarité. Alors, ça paraît assez innocent, mais quand on connaît l'histoire de ce protocole, la pression qui a été mise par le Royaume-Uni pour arriver à adresser cet avertissement à la Cour en disant maintenant c'est dans la Convention qu'on a inscrit l'idée que tu dois un peu respecter notre position et nos législateurs démocratiques. Quand on connaît toute l'histoire de ça, je trouve que c'est un peu inquiétant. Il y a comme une forme d'intimidation un tout petit peu de la Cour européenne des droits de l'homme. Autre pays, enfin, autre système juridique où les choses sont inquiétantes, je pense que c'est la Hongrie. Pour l'instant, il y a quand même toute une série de réformes, certaines ont abouti, d'autres n'ont pas abouti, où l'on voit effectivement mobiliser les idéaux démocratiques, le mécontentement du démos, pour clairement intimider des juges. Et il y a toute une série de réformes qui sont proposées, qui se heurtent systématiquement à la critique de la Commission de Venise, encore récemment, en juin 2013. Mais disons que ces réformes avancent pour certaines d'entre elles. Il a déjà fallu que la Cour de justice de Luxembourg condamne une de ces réformes qui était quand même assez radical, hein, l'abaissement obligatoire de la retraite des juges de 70 à 62 ans, c'est l'occasion d'évacuer tous les vieux du système, etc. D'autres réformes sont en chantier. Il y en a une notamment qui est très significative de cette espèce de prise à partie de l'opinion publique pour affaiblir les juges. C'est la réforme, et ça fait écho à ce que vous disiez avec Hamilton qui disait « les juges n'ont pas la bourse ni le glaive ». Il y a une réforme qui est actuellement à l'étude, qui consisterait à permettre en Hongrie, lorsque le pays est encore en déficit, à permettre de lever un impôt spécial toutes les fois qu'une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de justice de l'Union européenne engendre des débours supplémentaires pour l'État hongrois. Et donc, l'idée, et c'est justifié par la Hongrie, en disant qu'il faut responsabiliser un peu les juges, etc. Et c'est normal qu'en ces périodes de disette, si on doit commencer à creuser le déficit public parce que Luxembourg nous a condamnés, ou bien parce que la Cour, eh bien, il faudra payer, etc. Et la Commission de Venise dit que c'est tout à fait scandaleux comme procédé parce que vous allez complètement livrer tous ces juges à la menace d'une vindicte populaire. Et donc, c'est de l'intimidation à l'État pur. Alors, voilà, je dis que c'est une dérive, sans doute qu'il n'y aura pas de résultat concret, mais c'est assez significatif de voir que tout cela est mené dans un discours bien emballé de démocratie, de respect de démocratie, de prise en considération de l'opinion publique. Alors au niveau belge, et j'en termine par là, assiste-t-on à des choses un peu inquiétantes? Ben, bon, c'est pas la Hongrie non plus, mais enfin il y a quand même deux, trois petites choses sur lesquelles je trouve qu'il n'est pas jamais inutile d'insister un tout petit peu. La première chose, ça concerne le rôle du Conseil supérieur de la justice. Donc on le crée en 1998, avec l'espoir, et sans doute c'est un espoir gagnant, de dépolitiser une bonne et dernière fois la nomination dans la magistrature et de s'assurer aussi, dans la ligne de réforme antérieure, que les magistrats qu'on va nommer sont des gens capables, qui auront certifié leur aptitude. Donc on met ça en place, très bien, la particularité c'est qu'on ne met ça en place que pour les juges du pouvoir judiciaire. Pour les autres juges belges, les juges administratifs et les juges constitutionnels, en 1998, on ne prévoit pas tout ça. Mais on se promet d'y réfléchir. Mais chaque chose en son temps, dit-on. Et on est en 2013, on n'a quand même rien fait pour ces autres juges-là. Donc il y a une espèce de surplace comme ça, où l'on continue finalement à tolérer qu'on recrute à la Cour constitutionnelle ou au Conseil d'État des gens dont on s'inquiète moins de la dépolitisation ou de la formation professionnelle qu'un juge de paix dans un canton belge. Il y a quand même une espèce de paradoxe. Et je trouve en la matière qu'il n'avance pas, recule un tout petit peu sur le plan des idées. Alors, la petite histoire, c'est assez amusant. On est en train de nommer un juge à la Cour constitutionnelle à l'heure actuelle, donc sur présentation par 2/3 du Sénat. Et aux ruptures totales des traditions, le Sénat a décidé d'entendre le juge qu'il allait présenter à la nomination. Ça ne s'était jamais fait et tout le monde trouve ça extraordinaire que le Sénat a décidé d'auditionner les candidats. Mais c'est quand même assez curieux quand on voit ce qu'on exigera du moindre magistrat du pouvoir judiciaire. Alors, toujours dans la même veine, la Constitution belge s'est toujours beaucoup préoccupée de l'indépendance du juge, mais uniquement du juge judiciaire. Il y a des garanties très fortes, la nomination à vie, l'inamovibilité, l'irrévocabilité, le fait qu'un juge ne peut être privé de sa charge que par une décision d'autres juges, donc une garantie très très forte qui va bien au-delà de ce qu'exige la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne s'applique qu'aux juges du pouvoir judiciaire. Les autres juges, la Constitution ne prévoit rien à leur propos et à propos de leur indépendance. Alors on a toujours fonctionné par mimétisme. Pour le Conseil d'État, on a dit, bon, on va faire comme pour les juges judiciaires. Et eux aussi vont être nommés à vie et ne pourront être privés de leur charge que par un arrêt du Conseil d'État. Donc il y a eu un mimétisme, une espèce de bénévolat comme ça, législatif, qui pour l'instant fait que c'est satisfaisant. Mais la particularité de ces dernières années, c'est que cette démarche bénévole, on tente à l'oublier maintenant. On crée des juridictions administratives au niveau des communautés et des régions, avec des juges qui n'ont plus du tout un statut traditionnel selon les canons belges. Ce sont des juges qui sont nommés par le gouvernement pour des durées déterminées, 4 ans, 5 ans, qui sont révocables par le gouvernement pour inconduite notoire ou négligence grave, donc comme un fonctionnaire. Et tout ça est en train d'essaimer, je veux dire, des juridictions comme celle-là, on en a encore créé une à la faveur du fameux décret Marcourt pour statuer sur les inscriptions à l'université. On ne sait même plus tellement bien si ce sont des juges, tellement ça se rapproche comme statut de la fonction publique et tellement ça s'éloigne de ce qu'on a conçu classiquement comme le statut d'indépendant. Et je trouve ça aussi inquiétant parce que le pouvoir politique n'a pas l'air du tout de s'inquiéter de ça, n'a pas l'air du tout de trouver que ce soit pathologique de créer une nouvelle catégorie de juges nettement moins institutionnellement indépendants que ceux auxquels on a classiquement consacré beaucoup d'attention en Belgique. Alors voilà les choses que je voulais signaler.
Merci. Peut-être je vous donne une minute la parole si vous voulez réagir et puis on essaye de réserver un peu de temps pour la salle. Je dis juste quelque chose parce qu'après quand ça va terminer et que tout le monde va s'en aller, on a prévu un petit drink pour ceux qui veulent rester boire un verre avec nous ici.
Voilà. Incentive.
Voilà. Pour vous tenir encore un peu.
Merci bien pour les questions. Je vais répondre tout de suite, très rapidement. Alors, le premier point qui est très important, que je n'avais pas attaqué, parce qu'il est vraiment grand, c'est les rapports entre indépendance du juge et démocratie. Bah, j'ai essayé de répondre d'une façon un peu courte, en disant. Nous, aujourd'hui, du point de vue du fait, nous ne vivons pas dans des régimes démocratiques. Du point de vue, parce que les principes démocratiques, c'est seulement un des principes qui caractérisent les régimes politiques dans lesquels on vit. Alors, il y a les principes de la volonté populaire, c'est un principe, mais ce n'est pas la base de toutes les décisions qui sont prises dans notre. Ça n'a jamais été comme ça, et je dirais que, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, la situation a complètement évolué. On dirait que nous vivons dans des pays, dans des régimes qui sont, comme disait un très bien connu politiste américain, des polyarchies. Il y a des différents pouvoirs qui se confrontent d'une façon différente. Le problème, c'est quel rôle donner aux différents pouvoirs? Plus au pouvoir politique, au pouvoir du démos, plus au pouvoir de la loi, du droit des juristes. Comment organiser les pouvoirs des juristes? Ça, c'est, je crois que c'est le point. Si on veut être clair sur ce point. Après, la rhétorique, alors je parlerai au moment de la rhétorique démocratique, mais non. Systèmes ne sont pas des systèmes démocratiques du point de vue absolu. La démocratie absolue a été mise en part, je crois, pour le bien, parce qu'après certaines expériences qu'on a faites à la fin du XVIIIe siècle, dans des autres situations. Alors, de ce point de vue, l'indépendance des juges est une valeur, un principe, mais il faut toujours, je dirais, moi je suis politiste, alors je dis, regarde la situation comme un problème de trouver des arrangements praticables, viables. Il n'y a pas une situation bonne. Alors, la situation que je décris, c'est une situation dans laquelle, autrefois, les pouvoirs des juges, c'était, si vous voulez, un peu plus faible. Dans les dernières 50 années, ces pouvoirs sont accrus. Alors, il faut faire. Alors, et j'arrive à les autres points. J'ai été vraiment très, 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 très court et très sommaire. Alors, il est vrai, les pouvoirs politiques, quand je parle de pouvoirs politiques, je dis les partis politiques, les parlements, les gouvernements, ont une attitude ambiguë sur le pouvoir judiciaire. D'un côté, ils veulent abandonner des décisions, les procès qu'en anglais on dit la blame avoidance, pour donner la blame à la magistrature. De l'autre côté, ils vont reprendre demain des questions. Alors, il y a toujours cette, comme on dit, oscillation par les pouvoirs politiques. Mais les pouvoirs politiques, alors la réaction qu'on a eue dans les dernières 10 années en Europe contre les juges, c'est une réaction qui a été efficace seulement dans certaines conditions. Regardez, alors maintenant on peut parler de l'Italie. Alors, pour 20 années, Berlusconi a été en lutte avec le pouvoir judiciaire. Les résultats, il a été défait. Il a perdu. Il a perdu. À la fin, il a perdu. Plus ou moins, il peut résister encore un peu, mais à la fin, il a perdu. Il a combattu, il a fait de tout, il a essayé de tout faire. Je ne vais pas discuter toutes les choses, mais à la fin, le résultat final, c'est ça. Pourquoi? Je crois que le point important, c'est la structure du pouvoir politique. Où il y a un pouvoir politique fort, alors le pouvoir judiciaire peut être soumis. Et où il y a un pouvoir politique partagé, fragilisé, et ça c'est la situation dans beaucoup de pays, alors le pouvoir des juges est difficilement contenable. Le cas de l'Hongrie, c'est un cas intéressant parce qu'en Hongrie, en effet, à cause d'une loi électorale particulière, les partis, les Fidesz, les partis au pouvoir, a une majorité telle que peut changer la constitution. Alors ça, c'est une situation vraiment exceptionnelle de ce point de vue, parce que les partis au pouvoir a deux tiers de l'Assemblée législative, alors elle peut changer la constitution. Alors, de ce point de vue, il y a une concentration de pouvoir qui pourrait. Mais, point final, il est clair que l'augmentation du pouvoir judiciaire a eu comme conséquence une réaction de part cette réaction est d'une certaine façon dans les faits. Et c'est une réaction qu'on peut envisager, pas seulement en Europe, mais même aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons une situation par laquelle. La seule différence, c'est que les États-Unis ont une histoire des relations, des tensions entre justice et politique, qui remonte en 1801, avec les Marbury versus Madison. De la commencement du régime politique américain, on a toujours eu des tensions, et ces tensions peuvent être contrôlées d'une certaine façon. Mais par exemple, quand vous parlez de la décision du Sénat belge d'interroger les candidats, je pense immédiatement au Sénat américain. Le Sénat américain va tout, même parce qu'il a le pouvoir de donner un avis qui est un avis contraignant, ce n'est pas un avis simple, mais le pouvoir de donner un avis sur les nominations à la Cour fédérale, le Sénat américain toujours écoute, interroge, avec la télé aujourd'hui qui nous donne directement l'interrogatoire. C'est une véritable interrogatoire. Alors, je vois une réaction du monde politique. Le problème, c'est si les juges, je dirais, si les juristes, les complexes juridiques seront capables de gérer cette nouvelle situation avec cette nouvelle règle de jeu. Ça, c'est un point qu'on peut discuter.
Voilà, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une question sur ce que vous avez entendu ou une remarque?
J'ai une question pour chacun. D'abord pour M. Guarnieri, vous avez été mon professeur il y a longtemps, donc je suis très contente de vous avoir
invité. À Bologne?
Non, à Paris. Ah. À Paris, comme on était invité à Sciences Po Paris. En fait, ma question est la suivante, parce que peut-être pour vous ça a l'air évident, mais en tout cas pour moi ça ne l'est pas, je pense que pour nous ça ne l'est pas. C'est quand on voit les juges italiens et leur capacité de résistance, est-ce que quelque chose institutionnellement explique cette capacité de résistance? À dire vrai, mais peut-être je suis un peu pessimiste, j'ai l'impression que si on était dans des cas similaires en Belgique, je ne suis pas, en tout cas, je ne mettrais pas ma main au feu que les juges belges auraient, va peut-être d'ailleurs faire réagir Sébastien là-dessus, mais cette même capacité de résistance. Et donc je me demandais, justement en termes d'indépendance, quel mécanisme dans le recrutement ou pouvait expliquer cette capacité inouïe de résistance au pouvoir. Ça c'était pour vous, et là je vais peut-être dire pour Sébastien. Sébastien, je me posais une question, à mon avis elle ne va pas t'étonner, c'est que comment distinguer l'indépendance et l'intouchabilité? Parce que quand tu dis, par exemple, je donnais l'exemple de gens qui manifestent en Espagne par rapport à un arrêt de la Cour européenne, bon, je serais la première à dire que ce serait scandaleux qu'on coupe la tête des juges de la Cour européenne pour ça. Mais l'indépendance, est-ce que ça signifie l'incritiquabilité? L'indépendance, ça me semble des mécanismes dont vous avez parlé tous les deux, qui permettent aux juges de ne pas être déstabilisés par la critique. Mais est-ce que quand on glisse de l'indépendance à l'impossibilité de la critique, est-ce que là on n'est pas alors précisément dans l'inverse de ce que l'indépendance veut garantir, à savoir quelque chose, alors pas d'antidémocratique, mais il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans l'idée que les juges, parce qu'ils sont indépendants, l'opinion publique devrait s'abstenir de la critiquer ou même de manifester à leur encontre. C'est à la fois fondamental qu'ils soient indépendants et des mécanismes leur permettent de résister à ces critiques. Mais pourquoi devrait-on, en particulier l'opinion publique, s'abstenir de les critiquer? D'ailleurs, c'est un peu notre métier tous les jours, on fait bien les critiques de décision. Alors pourquoi le fameux peuple ne le pourrait-il pas? Voilà mes deux questions, messieurs.
Allez-y, peut-être.
À vous, Lune.
Merci.
Alors, comme il faut en résister, deux éléments. L'arrangement des pouvoirs politiques, c'est un arrangement qui partage les pouvoirs entre les différentes institutions. L'Italie a, pour des raisons historiques très claires, et les passés autoritaires, les passés fascistes. Après la guerre, la constitution italienne a été faite avec l'objet de partager, contrôler, diviser les pouvoirs. Alors, les juges ont devant eux un système politique qui n'est pas fort du point de vue décisionnel. Alors, parce que nous avons un système bicaméral, je ne vous donne pas les détails. Alors, d'un côté, le système politique c'est faible et il marchait un peu parce qu'on avait des grandes parties fortes dans la Première République, on dit ça, les communistes. Aujourd'hui, les partis sont complètement en crise du point de vue organisationnel, et alors les institutions sont encore plus faibles. De l'autre côté, la magistrature est assez forte, pas forte en absolu, mais plus forte que la politique. Et pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que la chute des confiances dans les politiques est énorme. Si vous prenez les eurobaromètres, pas tellement ici, mais en Italie, je crois que la confiance dans la politique, c'est 7%. La confiance dans la justice, c'est 30%. Et c'est pas beaucoup, mais 30% et 7%, et vous comprenez. Alors, c'est ça. Et l'autre point, c'est ça. La magistrature italienne a développé, dès les années 60, une grande capacité, je dirais, syndicale, d'organisation, et qui a été en partie, favorisée par les réformes du Conseil supérieur, par l'élection des membres, des composants judiciaires. Alors, ils ont une capacité organisationnelle très forte. Et après, il faut aussi réfléchir sur deux points. La magistrature italienne a joué un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme interne et contre les crimes organisés. Et ça a permis à la magistrature d'avoir d'un côté une certaine confiance populaire et de l'autre côté avoir même des instruments techniques. Parce que les enquêtes des mains propres, on ne peut pas les comprendre si on voit les techniques d'investigation développées contre le terrorisme et contre la crime organisée employées aussi contre la politique. Avec une adaptation, pas les mêmes, mais avec une certaine adaptation. Alors, ça, c'est une réponse très courte, mais je peux ajouter une chose à la question que vous posez. Je crois qu'aujourd'hui, exactement parce que les juges ont un rôle politique, un rôle dans les systèmes politiques plus important, ils doivent apprendre à jouer d'une façon différente.
la bouche de la loi, pour dire une chose, c'est une image qui n'est pas seulement, on ne peut pas la présenter encore. Aujourd'hui, on cherche à dire les juges, ce n'est pas la bouche de la loi, c'est la bouche de la Constitution. Mais je crois qu'il faut faire, et le point important, et je vais faire, c'est la relation entre les juges et les autres professionnels des droits. Ça, c'est le point. C'est le complexe légal qui est important.
Pardon.
Je suis un peu...
Donc, entendons-nous bien, donc je ne conteste pas du tout la possibilité pour l'opinion publique de se manifester pour critiquer une décision de justice. Je veux dire, effectivement, l'indépendance ne signifie pas le droit d'être mis à l'abri de toute forme de critique. Là où je m'indigne un peu et m'inquiète de tout ça, c'est de voir en fait la récupération de ce mouvement populaire que l'on laisse... dont on attise pratiquement la colère par des élites politiques qui jouent la carte du populisme, de la politique du bas-ventre la plus pure. Et donc, au Royaume-Uni, donc c'est la carte qu'on a jouée à propos du droit de vote des détenus que Strasbourg... la manière dont le Royaume-Uni gérait la question n'a pas été estimée conforme à la Convention. Et là, on a attisé un peu la vindicte du bon peuple pour montrer, mais vous voyez, votre légitimité démocratique, elle est absolument nulle. Nous en sommes titulaires, donc vous n'avez rien à nous dire. Résultat des courses, nous refusons de nous plier un ou deux débats à la Chambre des communes. Et voilà. Idem avec l'expulsion des terroristes présumés vers les pays où il était à peu près certain. Donc, il n'y a pas eu du tout de travail pédagogique de la part de ces édiles en essayant d'expliquer, à la limite en nourrissant aussi éventuellement un débat argumenté. Non, c'était vraiment jouer sur l'intimidation, quoi. Et en Espagne, le Premier ministre a marché au sens figuré avec les associations de victimes, parce que pour lui, ça lui permet tout à fait de se dédouaner, puisqu'on risquait de le mettre en cause aussi. C'était de lui dont on disait éventuellement que sa politique n'avait pas été condamnable là-dessus. Donc il a été courageusement dit, c'est vrai, c'est injuste. Et donc ça, c'est une forme de récupération d'une critique qu'on refuse d'argumenter en disant on va laisser les choses s'exprimer à l'état brut. Donc c'est contester à l'état brut la possibilité de pouvoir de Strasbourg décider quelque chose qui déplaît, quoi. Donc voilà, pour le reste.
Il y avait une question d'Olivier Cortel.
Oui, j'avais une question par rapport... Vous disiez il y a un instant, le juge, c'est pas la bouche de la loi ou de la Constitution. Donc en fait, vous remettez en cause la séparation des pouvoirs au sens classique et le confinement du rôle du juge dans une espèce d'expert un peu en dehors, si on veut, de choix politiques, finalement, qui n'auraient qu'à mettre en œuvre, dans la théorie classique de Montesquieu, les décisions politiques qu'il lui-même n'a pas compétence pour, finalement, adopter. Et donc, je vous suis tout à fait là-dessus, mais quelle implication sur le débat? Parce que si le juge ne tire pas sa légitimité de son expertise et de sa compétence, comme c'est souvent pourtant le discours qui va à l'appui de l'indépendance du juge, on dit « il ne doit pas être politique, il doit être compétent ». Comme si c'était l'un ou l'autre. Mais si c'est le cas, alors finalement, ça veut dire que quand on dit le juge est indépendant du pouvoir politique, ça laisse entendre que ce n'est pas un pouvoir politique. Or, c'en est un, spécialement, puisque ce n'est pas la bouche de la loi, donc il prend des décisions, spécialement peut-être pour les juridictions les plus élevées, en effet, comme la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne des droits de l'homme, où justement les nominations, y compris à la Cour européenne des droits de l'homme, sont politiques. Et j'imagine d'ailleurs, c'est peut-être une pirouette, mais pas tout à fait, que puisque la Cour européenne des droits de l'homme est fondée sur la Convention, elle estime elle-même que les nominations politiques ne portent pas atteinte à l'indépendance, puisqu'elle est elle-même le fruit des nominations politiques. Et donc, du coup, ça me semble un petit peu plus compliqué. Je ne dis pas, bon, je pourrais continuer en disant que c'est très bien que les juges, finalement, soient nommés au prorata des élections pour qu'il y ait un certain pluralisme politique dans les décisions des juges qui sont peut-être tout aussi politiques que les décisions du législateur, pas aller jusque-là, mais quand même, comment vous rencontrez cet élément-là dans la tension, parce que c'est toujours des dilemmes, en effet, que vous avez évoqués, entre la nécessité d'une indépendance institutionnelle, mais d'un autre côté, le problème de la légitimité pour prendre les décisions, de l'impartialité qui ne se limite pas à des questions de nomination ou justement des questions institutionnelles.
Non. Je partage avec vous les points qu'aujourd'hui la vie des juges est plus difficile. Parce que la bouche de la loi, c'était une façon très convenable pour se protéger et protéger l'indépendance. Mais je ne dis pas que... Attends. La bouche, comme dit la bouche de la loi, la définition du rôle du juge comme bouche de la loi, c'est une définition qu'on peut, on peut la rendre réelle, mais pour la rendre réelle, il faut tout, comme dit, employer des façons qu'aujourd'hui on peut pas, on veut pas les employer. Par exemple, pas des jugements de constitutionnalité des lois, parce que les bouches de la loi doivent être comme dit, soumis au pouvoir législatif. Pas je dis des contrôles, une homogénéité du corps très élevée, parce que s'il y a des différents voix dans les corps, alors l'élément politique sort. C'est une situation aujourd'hui peu réaliste, parce que par exemple, un système juridique stable qui ne change pas. Qui peut être interprété d'une façon assez claire, une profession juridique cohérente, homogène, tous des éléments qui peut-être existaient dans les 19e siècle, peut-être, un peu. Mais aujourd'hui, ne sont plus. Alors, aujourd'hui, pour les juges, c'est plus difficile, je suis d'accord avec vous. La bouche de la loi n'est plus la justification de l'indépendance. Alors, bien sûr, une justification normative, peut-être c'est difficile. Je ne suis pas la personne plus indiquée pour plaider. Je crois peut-être que la justification normative plus efficace, soit la justification de la poliarchie. Mais notre régime ne sont plus des régimes seulement démocratiques, parce qu'il y a des risques dans la démocratie. La dictature de la majorité, non, c'est un risque que nous connaissons. Alors, il y a beaucoup d'autres éléments, la redondance institutionnelle. Alors, les pouvoirs judiciaires, c'est important parce qu'il va diffuser les pouvoirs et donner des canaux d'expression, sans raison. Bien sûr, les résultats, c'est que les juges sont projetés dans un débat politique, ils viennent critiquer, ils doivent gérer une situation beaucoup plus grave. Je crois que, et alors je m'explique un peu plus de ce que je disais avant, je crois que les juges aujourd'hui doivent être un peu politiques. Non politiques dans le sens de parti X ou Z, ça c'est peut-être, ils doivent, mais ça c'est pas le point. Le point, ils doivent avoir une compétence politique et envisager des décisions, au moins dans les cas difficiles, parce qu'on parle des cas difficiles, on ne peut pas parler de contentieux de masse, on parle des cas. Dans les cas difficiles, le juge doit être un politique. Parce qu'il doit balancer des éléments, des valeurs différentes, des intérêts différents, et il doit trouver une capacité. Très souvent, je dirais, beaucoup de cours constitutionnelles sont capables de faire un bon travail de ce point de vue. Beaucoup de cours suprêmes sont capables de faire un bon travail. Pas toujours. On peut se tromper, on peut se tromper. Alors, je disais, de ce point de vue, les juges doivent apprendre à jouer avec des règles qui ne sont plus. Et c'est plus difficile, mais je ne veux pas une alternative. Comme on dit là, aujourd'hui, l'alternative, c'est l'alternative hongroise. L'alternative hongroise, c'est une alternative qui ne marchera pas, parce que c'est une alternative dans laquelle les prochaines parties qui vont au pouvoir fera la même chose, et alors on va retourner à une situation de lutte de son quartier.
Non, mais je vais reprendre sa question, parce que la question importante qui est dessous, mais c'est de dire si le juge doit avoir un rôle politique, quelle que soit la définition de ce rôle, s'il doit avoir même des aptitudes politiques pour juger les cas difficiles, sur quelle base on fonde son indépendance? C'est-à-dire que si, c'était ça la question, hein, si il est lui-même politique, pourquoi devrait-il être indépendant de la politique? Donc évidemment, il y a plusieurs types de réponses, et une des réponses, c'est de dire c'est juste parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs pouvoirs politiques ou plusieurs manières d'exercer le pouvoir politique différents, justement pour éviter des concentrations. Mais C'est vrai que c'est un
toujours
c'est un
le fédéraliste disait qu'il faut avoir des précautions auxiliaires pour garder les risques de la démocratie. Ça, c'était ça, la justification, je crois, de l'indépendance. la meilleure, au moins.
Est-ce que quelqu'un veut rapidement prendre la parole? Juste, moi j'avais juste une petite remarque. Au tout début de votre exposé, vous avez distingué entre l'attitude, enfin entre les résultats des sondages de confiance des citoyens, entre les résultats entre les pays scandinaves et germaniques qui ont fait peu de réformes, enfin on peut augmenter l'indépendance des juges, mais on fait des réformes de type managérial, et les pays du napoléonien, disons, qui eux ont beaucoup réformé et ont essayé de garantir davantage l'indépendance. Et vous dites, ce qui est paradoxal, c'est que plus on est dans des pays où l'indépendance a été moins mise en avant, plus il y a de la confiance dans les sondages d'opinion. Là, c'est une question un peu provocatrice, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce que ce qui fait la confiance de l'opinion publique envers la justice, ce n'est pas tellement l'indépendance, et encore moins d'ailleurs peut-être l'impartialité, mais c'est simplement l'efficacité de la justice. C'est-à-dire le temps... Parce que, en réalité, dans ces pays-là, qu'est-ce qui va différencier le fonctionnement? Je ne sais pas, hein, je ne les connais pas suffisamment, mais c'est une hypothèse. C'est plutôt le temps que les justiciables vont devoir attendre avant d'avoir leur dossier traité, la façon dont ils vont être reçus, la qualité des décisions qui vont être rendues, etc. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça, finalement, qui va être déterminant pour la confiance, plutôt que l'impartialité et l'indépendance, qui sont en réalité très dures à mesurer pour un justiciable qui a eu affaire à un juge? Qui sont des choses compliquées à évaluer. Parce que déjà, si on n'a pas eu gain de cause, on va avoir du mal à reconnaître l'impartialité du juge. Donc c'est une vraie question aussi sur pourquoi est-ce qu'on cherche l'indépendance, qui la cherche, et est-ce que c'est vraiment la confiance des citoyens qui est l'objectif?
Non, je suis d'accord avec vous. La confiance, c'est un indicateur très insuffisant, oui. J'avais dit. Mais je vous donne... les données, parce que c'est intéressant.
Ouais.
Alors, dans les pays du Sud,
ouais.
la moyenne des réponses positives, c'est 31%. 31% des gens interpellés, interrogés, disent qu'ils ont plutôt de la confiance. Dans les pays du Nord, c'est les doubles, 61%. C'est une chose vraiment incroyable. Non, alors peut-être on peut dire que ces pays sont les pays qui ont fait le choix peut-être juste de faire des réformes de type managérial, peut-être. Mais je dirais, non, c'est intéressant une autre donnée. J'ai fait une autre, à la recherche des indicateurs, j'ai pris les cas des violations de l'article 6 de la Convention par la Cour européenne des droits de l'homme. Soit les cas de lei, comme dit, court de lei, et soit les cas de fair trial. Et il est intéressant parce que sur les courts de lei, comme on dit, les délais raisonnables, les pays qui marchent mieux sont les pays du Nord, et dans les pays de l'Europe de l'Est, la Pologne et l'Estonie sont les pays qui vont mieux, de ce point, qui ont moins de cas. Tandis que la Roumanie, là, sont les pays qui ont beaucoup de cas sur les délais, même sur les fair hearing. Alors, de ce point de vue, il est vrai. Le problème, c'est que très souvent, pour avoir des réformes managériales qui marchent bien, il faut avoir une certaine homogénéité au consensus. Et ça, c'est le point. Alors on retourne à...
Moi, je ne veux pas défendre les réformes managériales.
Non.
C'est vrai qu'on entend aussi dans un discours qui doit être analysé une sorte d'opposition entre les réformes de type managérial et le discours de l'indépendance. C'est deux discours un peu idéologiques sur la justice qui en fait sont opposés, culturellement opposés, je crois. Voilà, on va arrêter parce qu'il est 8h05. On vous remercie encore tous les deux vraiment pour vos interventions très vite. Ceux qui souhaitent rester ou qui en ont le temps, on a quelques petites choses à boire et à grignoter si ça vous tente de continuer de poursuivre la discussion. Demain, on va en parler. Je vais juste récupérer le. Qui veut un petit verre? Excusez-moi.